Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Et aujourd'hui, on entame notre épisode 2 des petites clauderies. Et les gars, quelqu'un m'a fait la réflexion quand on a lancé l'épisode 1 des petites clauderies qu'on ne s'était pas présenté. Donc nous, on part du principe que les gens qui écoutent Sens Créatif nous connaissent. Mais c'est vrai que si vous commencez un épisode des petites clauderies sans connaître le contexte et tout, vous savez peut-être pas c'est qui ces trois oiseaux qui discutent. Donc pour ma part, c'est Jérémy Kleiss.
Pour ma part, c'est Laurent Bazar. Alors moi, je suis illustrateur, pixel artiste, wannabe producteur de musique et puis plein d'autres choses, voilà, entre autres. Et toi, tu fais quoi, Jérémy, dans la vie ?
Moi, bah, pas grand-chose.
J'essaie. Ok, suivant.
Voilà, Claude. Alors, non, moi, podcasteur, illustrateur, formateur, et depuis peu, j'aime bien faire un peu de la modération aussi. Donc,
dans des collèges.
Dans des collèges et des lycées, exactement. Non, des tables rondes pour discuter créativité, de podcast, tout ça. C'est vraiment un truc qui me fait de plus en plus kiffer. J'aime parler, voilà, j'aime parler.
Bon.
Et toi, Claude ?
Bah moi, Claude, illustrateur, mais pas que. Je fais du sport, je suis papa, je fais plein de choses, quoi. Voilà.
C'est vrai, c'est important de le préciser, ouais, ça. Nous ne sommes pas que notre profession,
exactement,
les gars.
D'ailleurs, j'aime pas dire « je suis ». J'aime pas dire ça. Je préférerais dire j'exerce la profession de, mais c'est un peu chiant à dire.
Ah, c'est compliqué.
C'est compliqué, mais tu vois, je trouve que quand tu dis je suis, tu t'identifies. Tu vois, quand tu dis je suis homme, ouais, je suis blanc, je suis illustrateur, tu t'identifies et du coup tu te fermes.
Ouais.
Pour moi, hein, pour moi après, tu t'identifies, c'est une forme d'essentialisation, pour un terme un peu barbare, mais c'est-à-dire que tu te représentes en tant qu'illustrateur et du coup bah tout ce qui fait que t'es pas illustrateur, bah tu te représentes plus, tu te représentes pas.
Je trouve ça hyper intéressant. Je me suis déjà fait cette réflexion, mais je trouve toujours que ça fait un petit peu prétentieux de qu'est-ce que et toi t'es qui, tu fais quoi, genre je suis un homme, je suis un être humain, enfin tu vois, c'est genre oh là là, le gars il fait tout de suite son intéressant, tu sais.
Non et... mais non, mais après, c'est chiant,
mais c'est mais c'est vrai, quoi. En même temps je pense comme toi, Claude. Je trouve que s'identifier comme ça à sa profession ou à son activité c'est parfois un peu réducteur, mais on nous met dans des petites cases comme ça.
En même temps, il faut bien briser la glace, les gars.
Voilà.
Faut mettre les pieds dans le plat. Faut aussi assumer un petit peu qui on est. Voilà.
Oui, voilà.
Exactement.
Mais... Non, mais c'était juste pour
pour te rendre intéressant.
Voilà, c'est ça. C'est pour faire un peu pour lancer le niveau, quoi.
Je sens que je vais être dans la contradiction.
C'est bien, c'est bien. Donc, nous sommes trois zozos qui aimons discuter illustration, créativité et tout et tout. Et ça, c'est le deuxième épisode des Clauderies, un nouveau format donc qu'on lance avec Claude, un très cher ami et illustrateur qui nous fait vraiment l'honneur de
nous rejoindre dans cette aventure. C'est super cool de discuter avec Claude.
Et cette petite série est basée notamment sur une série d'articles, Claude, que tu as écrit, que tu écris depuis des années sur ton blog. Et aujourd'hui, on discutera d'un article que tu as écrit intitulé « Du mieux qu'on peut », n'est-ce pas ?
Oui.
Alors Claude, comment on fait de son mieux ?
Alors bah, on fait ce qu'on peut déjà, surtout. Hein. Voilà. Donc, quand on fait ce qu'on peut, je pense qu'on fait de son mieux. Et donc ce qui m'a donné l'idée de cet article-là, c'est un peu, bah, comme toujours... des réflexions par rapport à mon parcours. Et moi, je suis autodidacte. J'ai commencé en tant qu'illustrateur à 30 ans. Donc, j'en avais déjà parlé lors du précédent épisode. Et j'ai travaillé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Et j'avais une forme de fierté quand même, quelque part, de me dire que ben, tout ça, c'était lié dû à mon travail et uniquement à mon travail. Et c'était un peu du genre...
méritocratie.
Voilà, la méritocratie, j'y croyais à fond, et puis c'est-à-dire que quand on veut, on peut, et tout ça c'est bercé par toute la littérature, tout le développement personnel, tous les parcours des gens qu'on met en avant, les grands sportifs, les grands écrivains, les grands. Et donc pour moi, c'est ma réussite, entre guillemets, hein, parce qu'on pourra toujours parler de ce que c'est que la réussite ou pas, mais en tout cas, le fait que je m'en sorte bien aujourd'hui, j'étais persuadé que c'était uniquement dû à la somme de travail et d'énergie que j'avais déployée. Et puis avec le temps, j'ai revu ma copie. Je pense qu'en fait, il faut bien sûr travailler beaucoup pour atteindre un objectif et puis peut-être s'en sortir, enfin pour atteindre une forme de succès ou je sais pas quoi. Enfin, il faut beaucoup travailler, mais qu'en fait, tout ce travail ne représente peut-être pas la totalité de. Enfin, ça suffit pas quoi. Ça suffit pas. Et en réfléchissant, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres facteurs qui sont extérieurs à soi, qui sont pas liés à l'énergie que tu déploies ni au travail que tu as fait, et qui sont des facteurs d'ordre sociaux, physiques, psychologiques. Et ça, tu peux rien y faire, quoi. Je parle par exemple de facteurs sociaux comme je viens d'un milieu social très défavorisé, très populaire. Donc moi, il a fallu franchir un tas d'obstacles sociaux, enfin psychologiques, pour pouvoir me dire que de faire ce métier, c'était possible. Je me suis dit que je pouvais être illustrateur à l'âge de 25 ans. Auparavant, je ne pouvais même pas imaginer que ça soit possible. Et ça, ce sont les déterminismes sociaux. Oui.
À 10 ans, je savais que je serais illustrateur.
Oui.
Et toi, tu n'en doutais pas, Laurent. C'était une évidence.
Voilà. Donc moi, il a fallu que je rencontre un photographe qui est devenu un ami à moi, qui m'a dit mais si t'aimes l'illustration, si t'aimes le dessin, pourquoi t'essaierais pas d'en vivre? Et moi, je me suis dit, ah ouais, c'est possible. Ouais, je ne savais pas. Donc ça, c'est extérieur à moi. Donc le milieu social dont on vient va t'aider, te favoriser, te déb. Enfin, après, ça suffit pas non plus, mais ce sont des facteurs extérieurs que tu peux pas maîtriser. Voilà. Et il y a d'autres facteurs extérieurs comme la condition physique, ta santé, si tu peux pas, t'en prendre un exemple, moi, au bout de 8 heures de travail, je suis épuisé, je peux plus rien faire. Mais si tu peux travailler 20 heures, moi, j'ai un copain qui travaille 14 heures d'affilée, et il peut continuer, bah il a un avantage sur moi. Et ça, c'est extérieur à
ah oui, à... bah la concurrence, qu'on la veuille ou qu'on la veuille pas, elle existe. Et forcément, il y a des gens qui bossent encore plus. C'est-à-dire que si toi t'es déjà un bourreau de travail, il y a encore un mec encore plus timbré ou une nana encore plus timbrée qui bosse encore plus.
Oui.
C'est la réalité.
C'est la réalité. On n'est pas égaux en fait. Et oui. T'as beau développer énormément d'énergie et de travail, ça peut ne pas suffire. Mm-hmm. Voilà.
Non, mais je trouve ça hyper intéressant, cette histoire de déterminisme social. C'est toi qui avais mis des mots dessus au détour d'une conversation sur le Discord Sens Créatif. Et encore, nous, on est des mecs blancs, pas issus d'une minorité, européens, enfin français, belges pour ma part. Et donc, du coup, on a déjà une avance sur d'autres et on est aussi nous conditionnés par un certain déterminisme social et moi c'est un vrai questionnement que j'ai parfois avec Sens Créatif où je me dis parce que moi un peu comme toi Claude et je pense quand on s'est connus j'étais aussi là-dedans et je pense que j'ai toujours un petit peu ce fuel là en moi, mais ce côté un peu quand on veut on peut, ce côté un peu le mythe du self-made man, j'ai une culture très anglophone, allez on y va, on sort les doigts et tout, et je pense que au fur et à mesure du temps je me suis quand même rendu compte, notamment avec les interviews de Sens Créatif, que non, on n'est pas égaux en fait, que je me rends compte que les personnes moi j'ai aussi d'un milieu classe moyenne, très moyenne, et je vois bien que les rockstars du milieu qui plient le game, c'est des gens qui travaillent très dur mais et qui sont doués, ça n'enlève en rien. Mais tu te rends quand même compte qu'il y a des personnes qui viennent de milieux plus favorisés ou qui viennent de milieux plus cultivés et qui du coup ont eu une avance et qui ont fait les meilleures écoles et qui c'est je me rends compte que pour ceux qui sont vraiment un peu entre guillemets, les meilleurs. Vous me corrigez si je me trompe ou si vous avez un avis différent, évidemment. Mais je me rends compte quand même qu'il y a un fil conducteur qui est favorisé, milieu aisé, meilleures écoles. Faut déjà avoir une bonne...
Bien sûr, c'est que des cartes bonus en plus, hein. Dans l'absolu, c'est des cartes que t'as déjà dans ta main, comme un peu comme quand tu joues au poker, les cartes sont distribuées et les jeux sont pas les mêmes. N'empêche, ça fait pas tout non plus.
Après, peut-être qu'avoir un peu
d'argent et avoir des connaissances, forcément, ça aide pour mieux démarrer, c'est évident. Ce sont des tremplins.
Alors là, on aborde. Là, Jérémy, tu parles. Des aspects techniques, on va dire de conditions sociales, l'argent, l'environnement familial et tout ça, mais je pense que le principal obstacle, c'est un obstacle psychologique qui fait que toi-même, venant de ce milieu, tu envisages même pas la possibilité d'atteindre...
C'est de l'auto-sabotage.
Ouais, c'est de l'auto-sabotage, mais c'est soit par méconnaissance, soit par... tu vois, par exemple, moi j'ai remarqué que sur Instagram... Tu prends sur les comptes des gens que je suis dans des collègues illustratrices, illustrateurs, et tu vois tout de suite au niveau du profil les gens qui se sentent portés ou pas, quoi, tu vois. Moi je suis illustrateur et il y a des gens, ils attaquent, ils sont artistes, tu vois déjà. Bah en fait moi je peux. Mais oui, parce que il y a des gens, ils ont pas la... Ils ont ça en eux en disant mais moi je suis artiste, quoi, je suis artiste.
Et toi, ça te gêne?
Bah c'est à dire que pour moi oui, c'est déjà, je me considère pas comme un artiste, mais peu importe qu'on soit artiste ou pas, puis de toute façon ça dépend de ce que ça signifie. Ouais. Mais déjà d'entrée, il y a des gens qui vont dire moi je vais en haut, quoi, je suis en haut, je et il y en a d'autres qui vont dire bah non mais moi je suis, c'est pas possible, c'est pas moi, tu vois ce que je veux dire.
Alors ça dépend de la manière dont tu l'envisages, parce que à la rigueur, ces étiquettes là elles ne valent que pour ce que les gens en pensent et ce que toi t'en fais. Voilà, en réalité la problématique derrière, c'est encore une fois l'auto-sabotage, de se dire je me cantonne, je me limite, et pour moi la problématique est là, parce qu'à la rigueur, quelqu'un qui se limite pas, je trouve pas qu'il y ait grand chose à redire, en fait, si tu veux, parce que après tout tu l'as mis, t'assumes. Alors que quelqu'un qui se limite, bah il est dans une peut-être une certaine alors je dirais pas fausse modestie, mais peut-être dans une espèce de syndrome du poisson rouge, c'est finalement dans son bocal, et le bocal qui le cantonne en fait à une place en fait qu'il a prédéterminée en fait. Alors qu'en réalité ce poisson rouge, il pourrait très bien vivre dans l'océan.
Ouais, bien sûr, ouais. Non, mais c'est exactement ça, mais oui, je comprends, hein, c'est...
Alors moi, j'ai trouvé l'astuce, hein. Moi, je me définis pixel artiste. Donc, du coup, c'est nickel, parce que j'ai à la fois la niche du pixel et en même temps, je suis artiste. Voilà. Donc, comme ça, j'ai résolu le problème.
C'est marrant, parce que pour faire une boucle sur ce qu'on se disait avant de quand on était petit et les barrières psychologiques, etc., Laurent a 10 ans et il savait qu'il serait illustrateur. Moi, depuis que je suis petit, je savais aussi que je voulais être dessinateur. C'est comme ça que je le disais. Justement, très dans ce côté self-made man, tout est possible. Et je crois que je me suis conforté plus jeune dans cette étiquette de l'artiste, parce que quelque part, ça, je m'excusais, j'étais un peu l'artiste de service, tu sais, j'avais pas beaucoup de super pouvoirs, c'est tout ce que j'allais faire, tu vois, c'était dessiner. Donc en fait, je me suis un peu conforté dans cette image d'artiste qui, c'était pas du tout pompeux. Et aujourd'hui, par contre, c'est presque comme si j'ai déconstruit en fait cette étiquette. Et justement, si tu parlais d'ego au tout début, Claude, le fait qu'on s'identifie à ce qu'on fait, etc. Aujourd'hui, je préfère le terme de créatif plutôt que d'artiste. Que je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, peut-être que je suis pas aussi artiste que je pense l'être. Et c'est que la trentaine passée que je commence un peu à déconstruire ça, quoi. Mais c'est marrant de voir un petit peu le rapport qu'on a tous les trois à ce mot artiste.
Ouais, mais là je vois pas teindre quand même. C'est quand même vachement plus facile, à mon sens, de se projeter comme artiste si t'as ce ressenti là depuis l'enfance. C'est pour toi, c'est une évidence, parce qu'en réalité, t'es placé dans cette case-là très très vite. Hein. Bon, je pense que c'était pareil pour toi, Jérémy. J'étais le meilleur de ma classe en dessin, quoi. Point barre.
Ouais.
Et, puis même du collège, tu vois. Donc quelque part, il y a pas photo, quoi. C'est t'es identifié comme ça directement. Après, c'est sûr que quand tu commences à rentrer dans la logique des études supérieures, et puis après de la professionnalisation, bah forcément, ce level de popularité, il se tasse vachement, et tu apprends finalement à t'identifier autrement, puis aussi à affiner. Mais c'est peut-être aussi pour ça que moi j'ai pas vraiment de problème avec les étiquettes. Par contre, je comprends complètement ce que tu dis, Claude. J'ai plein de potes, pour eux c'est pareil, ils se sentent plus comme des artisans que comme des artistes.
Et
c'est important pour eux.
Mais les illustrateurs, c'est souvent ça. Hein.
C'est pas dévalorisant, au contraire, c'est parce que voilà,
c'est noble.
Le craft, la noblesse du craft est tellement importante que finalement le mot artisan est un terme noble. Tu vois, c'est même pas un,
oui.
pas
un terme. Mais le problème, c'est même pas le terme artiste. Le problème, c'est que le sens que moi je lui donne, tu vois, c'est-à-dire que pour moi, artiste, c'était le peintre. C'est Van Gogh dans le musée, tu vois, c'est comme écrivain, c'est moi j'ai mis 57 ans à accepter d'écrire un texte et de le montrer, quoi. 57 ans.
C'est parce que pour moi, blog,
écrivain, hein.
C'est des articles de blog.
Non, pas 57 ans, je dis des bêtises. 47 ans.
Ah, je me disais, t'es quand même pas si vieux.
Non, j'ai mis 47 ans, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire il y a 3 ans. Non, ce que je veux dire, c'est les termes que nous, les barrières qu'on se met, simplement derrière les mots, derrière les termes. Je prends deux exemples. Tu prends des gens qui ont un certain succès dans l'illustration, dans le monde artistique, le graphisme et tout ça. Tu prends Jean Julien et tu prends Paul Cox. C'est des gens qui ont grandi dans des milieux où l'art, la culture était présente. Mais ils se posent même pas la question du mot artiste, quoi. Ils le sont, point. Et pour eux, c'est même pas un problème, c'est même pas un truc intouchable et tout. Je suis en train de lire en ce moment l'interview de Paul Cox.
Ouais.
Lui, à 20 ans, ou je sais pas quel âge, enfin, il était, il voulait faire peintre, et puis c'est tout, quoi.
Ouais.
Tu m'aurais dit à 20 ans de devenir peintre, mais pour moi, c'était même pas, c'est quelque chose
d'envisageable. Oui, et voilà. Aussi parce qu'en fait, on veut bouffer. En fait, on se dit, voilà. Il y a la question de la rémunération de peintre. Ouais. Ben non, c'est
oui,
je vais faire ça
en
hobby, quoi.
Tu l'as dit au début, Claude. Dans ton cas, personne t'a dit, voilà, c'est une solution pour toi. Elle existait même pas. C'est-à-dire qu'il y avait même dans l'univers, en fait, il y a pas de place en fait pour toi vers
voilà. Et tout ça, c'est en dehors des talents propres à chacun et de la somme de travail que ça représente. Parce que Jean-Julien, Paul Cox, ils ont un énorme talent. Ils ont aussi sans doute beaucoup travaillé, donc tu vois, mais à somme de travail égale, à talent égal, eh ben on n'est pas tous égaux, mais c'est normal, quoi.
Mais c'est un vrai questionnement, ce que je disais tout à l'heure, ou que je commençais à dire tout à l'heure par rapport à Sens Créatif. Tu sais, je pense que justement, grâce au podcast, ça fait un peu plus de 3 ans et demi que je le fais, donc je commence à me poser des questions ici ou là, c'est normal. Tu vois, ce que tu disais, Laurent, tout à l'heure, que peintre, pour prendre l'exemple de Claude, c'était même pas au goût du jour, on savait même pas que c'était peut-être accessible. Grâce à Sens Créatif, en fait, on envoie un message fort qui est, en fait, ce sont des vrais métiers, et on est tous les trois la preuve en est, toutes les personnes qui sont passées sur le podcast. Et du coup, ça vulgarise le métier, ça le rend accessible. Mais je dois bien m'avouer, ce que je disais tout à l'heure, qu'au fur et à mesure du temps, comme tu dis, Claude, on n'est pas tous égaux. Et du coup, par moment, j'ai presque un conflit intérieur en mode est-ce que c'est la poudre de perlimpinpin, est-ce que non, mais tu vois, c'est genre donner quelque part de, tu sais, il y a ce côté très enthousiaste sur Sens Créatif, allez on y va, on serre les coudes, et puis un peu quand on veut on peut, mais
ah, je vois ce que
le plafond de verre par moment, de ce que raconte aussi Claude, en fonction du milieu dont on vient, de notre genre, de nos revenus, de si on est issu d'une minorité, de la culture, enfin plein de choses, tu te dis, mais est-ce que en fait je suis pas en train de mislead people, comme on dit en anglais.
Ouais, je pensais pour le terme.
Voilà. Et voilà.
C'est intéressant. C'est intéressant comme posture. Et c'est vraiment super intéressant comme posture parce que évidemment, on a envie de pump up tout le monde. Moi, souvent, je trouve des trucs super chez les personnes. Tu vois, je vois un truc. Il y a un truc. Tu vois, il y a un truc à un moment. Et c'est ça qu'il faut développer. Tu vois, en général, quand je fais des book reviews, qu'on me demande de donner mon avis sur le boulot de telle ou telle personne, je sais que je vais réussir à identifier la bonne chose. Mais ça, c'est ma vision. C'est ma vision à un moment donné. D'un élément qui va me faire tilt, mais j'ai aucun impact, aucune influence, aucune possibilité de me dire que la personne va capter ce que moi j'ai vu en fait en réalité, et que la personne, ça se trouve, elle a une aspiration qui est complètement différente de ma vision que je projette sur elle. Et en fait, tout ce truc de mislead, comme tu dis, en fait le fait de pump up les gens, de dire c'est possible, allez-y, c'est sky is the limit, oui, forcément, c'est il y a un moment, il y a un certain vertige, parce que je pense qu'on y croit. On croit vraiment que c'est possible, hein, et on croit vraiment que si on se donne les moyens, on peut y arriver. Mais évidemment, ça va pas être du 100% de réussite. Et puis forcément, bah, pour certaines personnes, ça va pas être clair, et il va y avoir des abandons de parcours. Il va y avoir en fait aussi des changements d'optique, parce qu'on va s'apercevoir qu'en faisant, en essayant de développer tel métier, on s'aperçoit qu'on est plus fait pour un autre métier qui nous passionne encore plus. Des fois, c'est des sauts de puce, hein, qui nous amènent à nous accomplir, hein, plus que l'idée de la réussite, c'est l'idée de l'accomplissement. Je trouve que c'est un peu plus joyeux, je trouve. Mais voilà, je sais pas trop où je veux en venir, mais en gros. Je sais que je vais y arriver. C'est-à-dire que, au final, ce qui compte quand même, bah, c'est toujours la même histoire, c'est d'aller sur le chemin, quoi. C'est de s'y engager, et il va se passer des choses. Et en fait, là où on peut influer sur justement toutes ces choses extérieures qu'on ne contrôle pas, bah, c'est les choix qu'on fait, et aussi sentir les bons moments. Voilà, moi je pense que ça, c'est vraiment deux éléments. Si vous êtes complètement paumé, et ça, on en parle aussi dans le boxon créatif Lost. Si vous êtes paumé, bah, c'est votre capacité à faire des choix au bon moment qui vous sauvera la mise. Voilà.
Ce que je... Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis. Et moi, quand j'écris mes articles, je me pose tout le temps la question, et c'est presque une dichotomie, c'est-à-dire à quel moment je vois pas du rêve aux gens en disant ouais, tu peux y arriver, si tu fais ça, tu vas y arriver. Et à quel moment je dis la vérité et je dis bah oui, mais on fait ce qu'on peut. Et puis tu vois, c'est assez délicat. Oui. C'est un peu le problème que j'ai avec tout ce qu'on met en avant aujourd'hui dans les médias, dans les podcasts, dans les livres. C'est-à-dire, on va prendre l'élément du type qui a été handicapé et oui, qui va s'en sortir. Il va écrire un livre, on va le mettre dedans, on va dire, tu vois,
l'exception qui confirme pas la règle.
Voilà, c'est exactement ça. Mais on fait pareil quand on invite quelqu'un dans un podcast. Tu vas prendre le mec qui s'en est sorti, qui s'est battu, ça fait rêver, quoi. On se dit, bah toi aussi tu peux. Quelque part, le message qu'on véhicule, c'est ça, c'est toi aussi tu peux. Et ça, c'est pervers, parce que des fois on peut pas simplement parce que on n'a pas l'énergie, parce qu'on n'a pas le talent, parce que on n'a pas le physique pour. Ça, c'est comme si tu disais à un hippopotame, toi aussi tu peux être une girafe. Et non, tu peux pas, quoi. Mais tu peux pas, c'est...
Bah alors après, je suis d'accord avec ce que tu dis, Claude, mais à un moment, faut que l'hippopotame aussi, il arrête d'être naïf, et qu'il se rende compte aussi de qui il est, quoi, et qu'il aille vers des trucs qu'un hippopotame peut accomplir, et qu'il arrête de vouloir faire ce que fait la girafe, c'est-à-dire qu'il ira pas chercher
des feuilles
en haut. Tu parles de croire en soi, en fait.
Voilà, mais peut-être qu'il y a un hippopotame qui va y arriver, je sais pas, il va pousser des tas de feuilles, voilà. Il va arriver à atteindre le haut de l'arbre.
Voilà, c'est ça. Mais il faut juste être conscient de nos limites et de nos possibilités, et que tout n'est pas intrinsèquement lié à nous-mêmes, quoi. Tout n'est pas parce que ça génère de la culpabilité, quoi, quand même, parce que on dit toi tu peux, t'as les bouquins, t'as les podcasts, t'as les tas de mecs t'as des coachs, t'as tous ces gens là qui te disent tu peux en faisant ça, en appliquant telle recette. Mais si tu y arrives pas, t'es un, tu te dis, mais je suis nul ou quoi, j'ai toutes les recettes. Et deux, bah, il y a une énorme culpabilité, quoi, parce que tu te dis, je comprends pas, je. Alors, voilà, donc c'est ça, c'est assez difficile à, ouais, clair, à trouver une forme d'équilibre entre tout ça.
Une société marche ou crève, hein, et c'est vrai que mais, si, et puis l'impression aussi que le temps il part, qu'on le.
Mais c'est intéressant parce que tu vois, quand tu veux, tu peux. J'entends bien du coup un peu l'injonction qui peut devenir problématique, mais c'est marrant parce que moi dans mon parcours j'ai dû faire un shift dans mon esprit de tu dois à tu peux, et en réalité tu peux est devenu libérateur, là où avant comme disait Laurent tu marches ou crèves, donc j'étais vraiment dans une dualité dans tu dois, en fait ça doit marcher, là où tu dois faire ça pour que ça marche, je ne sais quoi. Qu'aujourd'hui, je change le tu dois par tu peux. Et du coup, je suis plus dans une injonction, je suis dans une volonté, j'aimerais.
Et si ça marche pas, tu te dis toujours, il y a une autre solution.
Pivoter, en fait, ouais. Tu corriges.
Savoir pivoter, ouais, c'est.
Mais c'est marrant comment l'une chose amène à l'autre et qu'en fait, chaque chose, comme le tu dois qui pouvait être une prison pour moi, passe à tu peux, et qui était pour moi une forme de libération, alors qu'en fait ça peut devenir une nouvelle cage, comme tu disais Claude.
Oui. Bah c'est le tu peux si tu veux, hein, c'est le si on veut on peut. C'est en fait la problématique, elle est là, c'est sur l'injonction en fait de la phrase, je trouve.
Ouais, alors je suis perturbé là, il y a un répondeur quelque part.
Ouais, je suis désolé, là, c'est mon téléphone, j'ai pas réussi à le couper. Bon. ça fera. Ouais, je suis désolé, ça essaie.
J'aimerais bien qu'on revienne sur cette phrase, si on veut, on peut.
Ouais.
Oui. Parce que en réalité, si on veut, c'est l'envie, hein, et on en a déjà pas mal parlé sur Sens Créatif. Il y a plus fort que l'envie, c'est le besoin.
Et
en fait, c'est pas si on veut, on peut, c'est si t'as besoin. Ça va être une évidence. Si t'as besoin, ça va être une évidence. Et si tu réponds pas à cette question du besoin, En fait, moi, pour moi, la clé, elle est là. Pour moi, la vraie clé, elle est là, parce que le besoin, c'est pas quelque chose de facile. Le besoin, c'est une évidence qui n'est pas si évidente, mais qui est intrinsèquement liée à ton feu sacré intérieur. À ton ventre. Et en fait, globalement, quand t'es allé chercher ce truc-là, y a pas grand-chose qui peut t'arrêter, parce qu'en réalité, tu vas être extrêmement souple, extrêmement adaptatif pour y arriver. Alors qu'une simple envie, bah peut-être que tu seras un peu plus rigide et que si ça marche pas, bah tu vas vite te décourager. Tu vois, voilà, il y a un peu de ça, je pense.
Ouais, je suis d'accord avec toi, Laurent. Ça me fait penser à une anecdote. Il y a un moment, je faisais des portes ouvertes des écoles, notamment, je m'en souviens plus, une école. Bon bref, Maximilien Vox, une école d'art graphique. Enfin, je sais plus. Et puis je rencontrais des étudiants et je voyais ceux qui avaient un potentiel en dehors du talent, Je voyais ceux qui avaient ce besoin d'aller plus loin, d'explorer cette envie, et ceux qui étaient simplement motivés par une envie, alors une envie peut-être de réussir ou je sais pas quoi, une envie parce que ça fait rêver, voilà, de ressembler. Et je voyais quand même ceux qui étaient motivés par une sorte de feu sacré. Qui doit être ce besoin.
Et le
finalement.
Besoin, il est spécifique, il appartient qu'à toi, voilà. Alors que l'envie, elle peut appartenir à plein de gens, en fait.
C'est ça, et l'envie, elle peut te motiver par des facteurs extérieurs, encore une fois, par la réussite d'un copain, par ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Ce que tu vois sur les réseaux sociaux, t'as envie, quoi. T'as envie d'être, de travailler pour tel support, t'as envie d'avoir tel succès, t'as envie d'être Jean-Julien. Et ça, c'est pas une bonne motivation en réalité.
Bah ça te met le pied à l'étrier, mais peut-être que tu restes dans quelque chose d'assez mental et d'extérieur, genre tu te projettes dans l'autre, donc t'en as besoin pour mettre la petite étincelle, pour te mettre en chemin, comme disait Laurent, le plus important c'est le chemin, et que en cours de route tu te rends compte que quelque part il faut passer de la tête au bide, en fait,
dans l'exploration,
aller quelque chose d'hyper viscéral.
C'est ça. Si on n'a pas le besoin tout de suite, c'est pas grave. Mais il faut aller à l'exploration de ce besoin-là et de pas trop rester dans l'envie de ressembler. En fait, c'est une adolescence, en fait, l'envie de ressembler, je pense, pour quelqu'un qui fait de l'image.
C'est obligé, hein. C'est obligé.
Du son, hein. Voilà. Quand on est dans ces pratiques artistiques, on passe par là. Mais à un moment, il faut trouver, on radote comme des oufs, mais il faut trouver sa singularité, sa spécificité, son besoin. Et c'est là où les choses après peuvent vraiment se décomposer.
Mais
ça n'a rien de facile.
Ouais. Claude, ouais.
Oui, et je disais, je pense que parmi tous ces gens qui sont déjà dans le milieu ou tous ces étudiants qui arrivent, il y a un grand nombre qui ne sont pas faits pour ça, parce qu'ils n'ont pas,
le feu sacré.
Ben oui, ils n'ont pas le feu sacré. Et tu l'as ou tu l'as pas. Moi, je me lève le matin. Si t'as du mal à te lever le matin, si tu dis qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, je pense que c'est raté, quoi.
À quoi il ressemble?
Alors, tu vas te battre.
À quoi il ressemble ton feu sacré, Claude?
Ah bah moi, le feu sacré, comme je te disais, c'est une forme de passion inextinguible.
C'est une évidence.
C'est une évidence. Je ne peux pas poser de questions. J'ai 20 projets personnels en cours, des idées qui viennent tout le temps. Je me lève le matin, je me pose pas la question de savoir ce que je vais faire aujourd'hui. Je sais que je pourrais bosser 24 heures sur 24 si physiquement je pouvais, et qu'il y avait aucune contrainte physique à ça, je pourrais bosser 24 heures sur 24 à faire des choses, quoi.
En quoi l'illustration répond à ton besoin?
Ah bah j'en sais rien. C'est
comme une nourriture.
Oui, c'est comme une nourriture. Quand t'as faim, tu vas manger et voilà. Ben bon, après il y a le problème on a besoin de se ressourcer quand même. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a une forme d'épuisement qui s'installe. Mm-hmm. Donc là, il faut aller se ressourcer. Mais même dans la ressource, même dans le ressourcement, j'ai dit le ressourcement. Là,
ouais, c'est bien.
Je
sais
pas comment on dit.
Ouais,
c'est bon. Je vais aller. Ouais. Même dans le ressourcement, il y a de la passion, parce que tu vois. Hier, je suis allé voir une expo. C'est une forme de. Pour me ressourcer, ben j'aurais super envie d'y aller, j'ai envie de découvrir, je regarde les bouquins, je regarde toutes les images, je regarde, et je pense que des gens qui s'en sortent le mieux dans ce métier, ils ont ça, je pense, je sais pas.
Bah écoute, nous, en tout cas en interview, et Jérémy il pourra confirmer avec encore plus d'expérience de son côté, quand on va en interview, les gens qu'on a en face de nous, ils ont ça.
Ils ont ça.
Je me rappelle pas de quelqu'un qui m'a paru blasé,
détaché,
ou détaché. Enfin, je veux dire, même les pires interviews, on sent que la personne, elle a consacré une partie de sa vie à ce besoin. C'est clair et net.
Oui. Alors après, je pense que tu peux t'en sortir sans ça. Mais ça sera plus difficile.
Oui, mais c'est parce que t'as. Ouais. C'est vrai. Je pense que si on reste justement dans ce truc de un peu mental, et on en revient un peu aux choses dont on avait parlé aussi dans le premier épisode et en préambule de cet épisode, c'est l'ego, le besoin de reconnaissance et tout. Ça te met le pied à l'étrier. Mais en fait, il y a besoin d'aller de prendre soin de soi. Au final, on en revient toujours un peu à ça, sur ce créatif, à ce côté un petit peu doudou, justement. De temps en temps, je me demande où est un peu la limite, mais c'est genre, en fait, c'est pas du tout doudou dans le sens de, au lieu de se projeter chez les autres, regarder à l'intérieur et voir en quoi notre travail créatif, quel qu'il soit, peut venir répondre à un besoin. Et là, quand on contacte ce feu sacré, ce truc qui est à l'intérieur de nous, dans notre bide, en fait, ben, c'est viscéral, en fait, ça nous tord, et en même temps, ça nous fait du bien. Et en même temps, c'est vulnérable d'aller voir à l'intérieur de nous et de se dire, bon, de quoi est-ce que j'ai besoin, comment est-ce que je peux, comment mon travail, notamment, peut y contribuer, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui. Alors après, moi, le sentiment que j'ai, j'ai pas eu besoin de cette introspection, de regarder, ou alors ça s'est fait inconsciemment.
Ah, pourtant t'es très introspectif, Claude. J'ai toujours trouvé que t'étais.
En fait, après coup, c'est-à-dire,
oui.
Je suis introspectif. J'essaie de comprendre pourquoi je réagis comme ça, pourquoi.
Il faut se prendre un peu des murs, quoi, pour philosopher, quoi.
Oui, voilà. Pourquoi je ressens ça, pourquoi. Donc ça, c'est un travail d'introspection. Mais sur ce besoin de qu'est-ce que j'ai besoin fondamentalement, je crois que ça s'est fait inconsciemment,
oui,
tout seul.
Bien sûr, ouais.
J'ai l'impression d'être né avec ça finalement, parce que quand j'étais petit, j'inventais des histoires, je jouais beaucoup et j'inventais mes histoires. J'avais besoin de personne finalement pour me raconter mes histoires. Je prenais mon vélo. J'étais à vélo. Je prenais mon vélo et j'étais John Wayne, j'étais Steve McQueen, j'étais un chevalier, je m'inventais des histoires, quoi. Donc je pense que c'est un besoin chez moi qui a jamais été travaillé, si tu veux. J'ai pas eu besoin de faire. J'ai grandi avec ça et ça s'est transformé en créativité finalement.
Ouais,
je pense.
Ouais, tu l'as transformé, ouais.
Ouais, je parle pas de talent et tout ça, hein. Je te parle juste que j'ai eu besoin d'écrire, de dessiner, de peu importe ce que ça a donné, mais c'est.
C'est comme Sega. C'est plus fort que toi.
Ouais. Je sais pas, ouais.
Il va falloir.
Je sais pas pour vous les gars, mais.
Sony maintenant. Faut que c'était Nintendo, merci.
Voilà. Mais par contre, je voudrais rajouter que je disais tout à l'heure les dangers de mettre en avant, pas le danger, mais le problème de mettre en avant des gens qui réussissent.
Ouais.
Et qui créent de la culpabilité, tout ça. D'un autre côté, il y a cet aspect qui est quand même inspirant.
Oui.
Donc, c'est vraiment, moi, ça m'a beaucoup motivé des gens comme ça.
Ouais.
Me disant, voilà. Donc, ça m'a tiré vers le haut quelque part aussi.
Oui.
Bah c'est ça, juste qu'à un moment tu te rends compte aussi que c'est leur parcours, c'est leur spécificité, leur singularité.
Oui, c'est important.
Et qu'en fait,
ça.
C'est voilà, ça. C'est s'en inspirer, c'est inévitable. Chercher absolument à reproduire le même parcours, bah c'est juste pas possible quoi. Et à un moment faut s'en rendre compte. Et c'est le moment où il faut aller chercher ce qui nous pousse vraiment quoi. Moi ça m'est arrivé. Hein. De toute façon, moi j'ai commencé comme ça. Je voulais être dessinateur de BD. Bah, c'est parce que j'avais envie de ressembler à mes
qui n'a pas voulu être dessinateur de BD, hein.
Voilà. Non, mais j'avais envie de ressembler à mes héros. C'est la vie qui vivait, les bouquins qui sortaient,
donc il faut des personnes ouais. Quelque part qui réussissent dans une certaine mesure, hein. On peut définir aussi la réussite, mais
ça rassure parce qu'on se dit c'est possible.
Ils rendent la chose possible. Du coup, ça nous met sur notre chemin. Et puis après, pourquoi on se projette, on essaie, pourquoi pas moi. C'est déjà beaucoup de se dire pourquoi pas moi. C'est genre,
c'est ça. Mais ça peut déjà prendre un certain années, niveau de,
ouais,
ça
voilà.
Ça peut prendre des années entre le pourquoi pas moi et le moment où on arrive, on se dit, oh putain, mais en fait, c'est pas moi du tout. Et là, ouais. il faut
et là, tu te prends des murs et voilà. Là, tu vas dans ton bide en te disant, mais c'est
qui
quoi ce qui est viscéral, ouais, que ça devient un peu philo.
Allô, allô. Ici le Patate Club.
Et nous interrompons quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si Sens Créatif vous plaît, vous pouvez aussi nous aider en nous soutenant financièrement sur Patreon. Cela vous donne accès au Patate Club, la communauté des artistes qui te donne grave la patate, mais aussi au Discord Sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous. Mais si vous rejoignez le Patate Club, vous aurez accès à l'entièreté de cet outil qu'on a imaginé pour permettre aux créateurs et créatrices d'échanger quotidiennement sur leurs pratiques, leurs explorations, leurs ressentis et de mutualiser leurs expériences. Rejoindre le Patate Club, c'est aussi accéder aux rencontres régionales, aux ateliers en ligne, aux projets collaboratifs, aux épisodes bonus, aux portfolio reviews, bref, à tout un écosystème créatif pour vous accompagner dans votre vie d'artiste. Et si vous hésitez, vous pouvez aussi tout simplement nous soutenir financièrement parce que vous aimez ce podcast et que vous aimeriez nous aider à le produire. Ça se passe sur patreon.com/sciencecreativepodcast ou sur patatclub.com. D'avance, on vous dit un grand merci.
Allez, retour à l'épisode.
Mais j'ai eu le même parcours que toi, Laurent. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à vouloir être illustrateur, j'ai voulu d'abord être dessinateur de bande dessinée.
Tu t'es même créé un alter ego.
Voilà, c'est ça. Dans mon rêve, je voulais faire de la bande dessinée parce que c'était mon rêve. C'était mon rêve.
Et tu l'as fait. Donc, et c'est la BD qui t'a amené à l'illustration. C'est trop drôle.
Voilà, c'est ça. Et au bout de quelques années, j'ai fait 2-3 bouquins et je me suis dit, mais non, en fait, c'est ton rêve. C'est pas ça, enfin je j'étais pas bien là-dedans et c'est j'ai basculé vers l'illustration.
Et c'était moins laborieux. Je trouve intéressant aussi avec la thématique du mieux qu'on peut, dans le sens où ça te coûtait moins de faire de l'illustration, tu le faisais pour financer tes projets de BD, et en fait tu t'es rendu compte que t'étais meilleur, que c'était moins compliqué, que les gens étaient plus réceptifs. Et que c'était plus rémunérateur. Et donc tu t'es dit, mais en fait, qu'est-ce que je me prends la tête à essayer de concrétiser ce rêve entre guillemets d'enfance, de faire de la BD, où tu t'étais tellement associé de ton identité à ce rêve de faire de la BD, et tu t'as fait ce pas de côté, et en fait, l'illustration a été beaucoup plus émancipatrice pour toi. C'est intéressant.
Ah voilà. Mais en dehors de tous les aspects matériels, hein, c'est-à-dire même en dehors de l'argent, en dehors de, je m'éclatais plus à faire de l'illustration. Donc là, je rejoins Laurent en disant que, bah, finalement, c'est le chemin qui compte.
Oui.
Et puis entre ne rien faire et être pour continuer avec l'exemple de Jean-Julien ou de Paul Cox, entre ne rien faire et être Paul Cox ou Jean-Julien, il y a un tas de possibilités, quoi. Il y a des tas de possibilités. T'es pas obligé d'être l'un ou l'autre, tu vois. Tu peux mener ta barque, évoluer sans être frustré de pas être parce que de toute façon Jean-Julien il y en a qu'un, c'est lui. Donc il y a une autre place ailleurs pour toi, peut-être un peu moins rémunératrice, peut-être un peu moins de succès, peut-être un peu moins, mais il y a des places, il y a de la place. Il faut juste chercher sa place là où on est bien, quoi. Donc voilà.
Je me pose une question en vous écoutant, les gars. Avec l'important, c'est le chemin. J'adhère totalement. Puis on fait du mieux qu'on peut. C'est aussi un peu quelque chose en quoi je crois. Mais je me demande,
on verra sur la phrase là après.
Oui.
Teaser. Vas-y.
Voilà. Mais est-ce que c'est pas une position de privilégié, tu sais, de dire genre c'est le chemin qui compte, que nous on peut se dire genre bah oui c'est le chemin qui compte, alors qu'il y a des personnes et je veux bien que vous me contredisiez, hein, je pose la question de manière candide et sincère, genre comment est-ce que on peut, c'est pas, il y a des personnes qui sont dans des urgences, dans des situations où ils se disent non mais vous êtes mignons les gars avec vos histoires de c'est le chemin qui compte et je fais de mon mieux, mais moi j'ai besoin que ça fonctionne là maintenant tout de suite en fait, et ça peut se comprendre.
Qu'est-ce qui te garantit que ça va marcher maintenant tout de suite?
Non
mais c'est
à un moment,
c'est pas contradictoire, bah, hein.
Et alors moi je voulais dire que j'allais être contradictoire, mais simplement pour dire que si c'est vraiment le chemin qui compte, parce que si on s'embarque pas sur un chemin, il y a rien qui va se passer. Passer. Et un chemin, on peut y aller avec un baluchon, quoi. Il y a pas nécessité d'y aller avec une maison sur le dos, quoi. À un moment, faut partir en toute modestie, avec pas grand chose, et le cœur ouvert, et être prêt à rencontrer un petit peu sa destinée, quoi. Mais si on fait pas ce pas-là, la destinée, on la rencontre jamais. Hein. Moi, faut être clair là-dessus. Moi, je vais pas tergiverser sur ce sujet-là. Hein. Pour moi, c'est vraiment évident, quoi.
Et est-ce que cette posture-là, elle est pas simple à adopter, cette posture quand on est dans l'urgence, tu sais?
L'urgence, c'est quoi? C'est le fric?
Ouais, peut-être pour certaines personnes qui nous écoutent, oui. Nous aussi, je veux dire.
Si on a besoin de fric tout de suite, faut trouver un taf pour gagner de l'argent. Voilà. Et après, le truc, c'est qu'il faut se dégager du temps à côté pour faire son art.
Oui.
Si on a envie.
Ça, c'est concret.
Si c'est un besoin. Et ça, c'est une réponse concrète. Moi, je l'ai jamais fait. J'ai jamais été chercher de taf pour croûter. Enfin, en tout cas, un taf qui n'est pas un besoin, un taf vraiment alimentaire. Je l'ai jamais fait. Parce qu'en fait, j'ai ce truc-là en moi, qui est un petit peu inconscient et complètement kamikaze, mais c'est de me dire non, moi je ne gagne de l'argent qu'avec la partie artistique.
Mais je trouve intéressant ça, parce que je trouve que c'est aussi presque une injonction générationnelle dans laquelle je me retrouve aussi, qui était faire gagner sa vie en faisant quelque chose qui nous plaît, qui nous passionne, gros guillemets. Donc il y a des conversations d'ailleurs aujourd'hui dans le milieu de l'entrepreneuriat par rapport à suivre sa passion et si c'est vraiment quelque chose de judicieux ou pas. Mais en tout cas, toujours est-il que moi, je me suis construit là-dedans. Et quand on en revient à ce que disait Claude au début, c'est genre, si on s'attache tellement fort à cette idée qu'il faut que je gagne ma vie avec quelque chose que j'aime, et si on n'est pas tous égaux et qu'il y a du déterminisme social et tout, ça peut rendre l'équation compliquée.
Oui, bien sûr, l'équation est compliquée, mais moi, je termine l'analyse, hein, de ma connerie, c'est que je vais au bout de ma connerie, c'est-à-dire que je ne laisse pas la place à une autre possibilité.
Ouais.
Que d'y arriver.
Oui,
et c'est sûr, hein, je comprends que ce discours-là peut ne pas résonner partout, mais n'empêche que moi c'est pour ça que je fais ça, quoi. C'est hors de question, et le jour où je serai obligé, je serai très malheureux de le faire. Le jour où je suis obligé d'aller faire un travail qui me plaît pas pour gagner de l'argent, je vais être très malheureux. Hors contexte mondial où il faut prendre les armes parce que c'est la guerre, ou qu'il y a des zombies qui nous attaquent, évidemment, ça c'est autre chose. Mais je parle vraiment de, voilà, dans une société, voilà, encore à peu près normale, hors de question, quoi. C'est, j'en chierais, mais je trouverais du taf artistique. C'est nécessaire, c'est mon besoin. Pour moi, je laisse pas la place ailleurs parce que c'est ma stratégie. Et c'est pour ça qu'à mon avis, j'y arrive. C'est parce que dans ma stratégie, je dis pas qu'il n'y a pas de place pour l'échec, mais en tout cas, il n'y a pas de place pour m'éloigner de mon rêve. Voilà. C'est une sorte c'est une sorte de carburant que je me mets et qui fait que ça marche pour moi en tout cas. Voilà, c'est une des manières que j'ai trouvé pour aller de l'avant et aller sur le chemin. Et après bah il y a la manière dont tu réagis sur ce chemin. Moi, j'ai pas toujours bien réagi sur mon chemin. En 20 ans de carrière, j'ai fait plein de conneries, plein d'erreurs. Je me suis souvent planté de chemin du coup, mais en tout cas, j'ai jamais dévié de cette ligne de conduite quoi. Tu vois l'horizon? Je le perds pas de vue hein. même quand il est caché, je sais qu'il est là derrière et j'avance. Voilà.
Ouais, bah moi en fait par rapport à ce que tu dis Jérémy, je suis d'accord avec toi, on est dans des positions plutôt tranquilles aujourd'hui et c'est facile de dire ça une fois qu'on est bien installé, que on n'a pas de problème matériel, etc. Par contre moi en ce qui me concerne et par rapport à l'expérience que j'ai eue, mais ça a pas toujours été comme ça hein.
Oui.
Quand t'as 30 ans, j'ai arrêté et que je me suis lancé dans l'illustration. J'avais un job, je suis passé à mi-temps. Avec ma femme, on a réduit de 50% de nos revenus parce qu'elle aussi changeait de boulot.
Ouais.
On habitait dans des HLM, on avait un enfant. Je peux te dire que, enfin, les fins de mois étaient difficiles. Et on a tenté le coup et on avait un peu d'argent de côté. Si tu veux, on n'a pas fait les choses, on sait pas. Enfin, on a pris un risque. On a pris un risque, mais on a fait des sacrifices aussi. Et c'était pas atroce, hein. Mais on a quand même eu des difficultés, on peut le dire, quoi. Et on a pris un risque. Et puis on s'est dit, on verra dans 5 ans, en se disant, bah, si dans 3 ans ça va pas, que c'est la catastrophe, bah, on trouvera des solutions, on verra. Tu vois, c'était plus de cet ordre-là, quoi. Il faut prendre des risques. Oui. Ouais. Et il faut faire des sacrifices. Et il faut faire des choix. Quand t'as 30 ans, je parle d'une autre époque, hein, parce que je comprends qu'aujourd'hui, les contextes sont différents encore, mais quand moi j'avais 30 ans, les gens, mes copains, ils achetaient des appartements. Hein. Moi, j'étais dans un HLM, quoi. Tu vois? Les copains achetaient des appartements parce que eux, ça faisait 10 ans qu'ils bossaient, ils avaient évolué dans leur carrière, etc. Moi, le choix que j'ai fait, c'est, je passe à mi-temps, je réduis de 50% mes revenus pour envisager un rêve. Tu vois, c'est gonflé après. Quand même. Après, ça m'a pas paru difficile parce que je reviens à ce truc, ce besoin que j'avais en moi de le faire. Donc ça m'a pas paru difficile.
Oui, t'as choisi tes difficultés.
Mais il a fallu faire des sacrifices.
Ouais.
Le sacrifice de pas acheter un appartement, le sacrifice de vivre en HLM. Le sacrifice de pas partir en vacances, le sacrifice de travailler le soir quand je rentrais du boulot, et travailler le soir pour l'illustration. Et voilà, quoi, mais c'était motivé par cette passion, ce besoin dont on parlait au début. Et aujourd'hui, bah, je peux dire que, rétrospectivement, j'ai bien fait, mais c'est,
oui.
Voilà, quoi.
On a déjà parlé, sur Sens Créatif, de la différence entre, quand on choisit ses difficultés, on les subit pas. Parce qu'on a choisi nous-mêmes notre chemin et on sait a priori que ça va pas forcément être une balade de santé constamment. Ce qui fait que quand il y a des difficultés, on est plus volontaire a priori pour les aborder. Là où quand on nous impose une situation contraignante, en fait on subit les difficultés. Non mais c'est important, ouais, de non, dire voilà, sûr. Bon bah j'ai choisi ce chemin, je comme tu racontes ton histoire Claude, tu savais dans quoi tu t'embarquais et donc du coup bah c'était ton choix et donc du coup c'était peut-être c'était pas forcément plus facile
et si je me
mais tu savais pourquoi tu le faisais.
Voilà et puis bien sûr il y a le risque que ça ne marche pas, enfin que tu t'en sortes pas. Non, mais ça, c'est faut l'accepter et te dire, bah, on verra. À ce moment-là, on verra. Alors Laurent, il aura pas fait de sacrifice et il continuera dans sa voie. Ah bah moi, je sais pas ce que j'aurais fait. Peut-être que j'aurais repris un boulot. Hein, je sais pas.
C'est un sacrifice parce que je suis complètement d'accord. En fait, on dit la même chose. C'est juste qu'on n'a pas la même.
On dit la même chose, hein, oui, bien sûr.
En fait, moi, j'ai jamais eu besoin parce qu'en fait, dès le début, je me suis dit, bah, c'est parti pour la galère. Ça va être génial. C'est exactement ce que je voulais faire. Et des années de galère, j'en ai eu, quoi. J'ai vraiment eu des années de galère. Voilà. Mais c'est de la galère de bohémien, quoi. C'est de la galère voulue. C'est de la galère où finalement, j'ai jamais regretté. Et puis au final c'est cool parce que je finis par réussir là à obtenir ce que je voulais. J'ai peut-être mis 20 ans mais ça y est.
C'est émouvant aussi ça. C'est émouvant quand on, quand ça marche et qu'on sait qu'on y a mis la sueur du travail, qu'on en a pchi, qu'on a pleuré pour que ça fonctionne. C'est d'autant plus beau, quand on sait ce que ça nous a coûté.
Ben voilà, c'est ça.
Oui, ben oui. Mais je pense que même les gens pour qui c'était plus simple au départ, quand on parlait des déterminismes sociaux, je pense qu'il faut qu'ils travaillent aussi énormément. Hein.
Tous les gens talentueux que pas... je connais, qui bossent, ils ont bossé. enfin, qui bossent maintenant.
Ouais, ils ont bossé, ouais.
Mais voilà, je vais la
refaire. Ça tombe jamais du ciel.
Tous les gens talentueux que je connais, qui ont du succès, en fait, c'est pas leur talent. C'est parce qu'en fait, c'est vraiment des fous de travail. Ils adorent ça. Et ils en font tout le temps. Et ils ont une super production. En plus, qui rajoute dessus le talent, hein, qu'ils ont développé. Et c'est ça qui fait que c'est monstrueux, quoi, après.
Mais c'est ce que tu racontes. J'ai l'impression, Claude, en conclusion de ton article, que quelque part, il n'y a pas de secret. Il faut travailler et d'avoir conscience, qu'on fait du mieux qu'on peut, qu'on n'est pas tous égaux, mais que voilà, on fait du mieux qu'on peut et c'est déjà beaucoup.
C'est déjà pas mal. Bah oui, c'est beaucoup.
De cette petite phrase là, je vais faire mon emmerdeur comme d'habitude. Du mieux qu'on peut, ok. Mais en fait, le mieux est l'ennemi du bien. Donc en fait, moi, j'avais plutôt envie de dire, on fait du bien qu'on peut. Voilà.
Oh là, qu'il est chiant là, chipoter sur les mots, c'est pas possible.
Oui, parce que le mieux est déjà une injonction.
Mais le pire, c'est que je suis trop d'accord avec toi. Genre, tu sais, moi, ça a été une vraie révélation. Le mieux est l'ennemi du bien. J'ai toujours voulu en faire trop. Mais vas-y, développe Laurent, ta pensée.
Ouais, bon, c'est surtout un jeu de mots à la base parce qu'évidemment, faire du mieux qu'on peut, c'est sûr que c'est le top de ce qu'on doit faire pour pas regretter en réalité. Mais souvent, oui, le mieux n'est pas forcément le bon angle parce que des fois, en fait, un succès il peut se suffire à lui-même sans qu'on en rajoute 40 000 ingrédients. Et l'économie de moyens, hein, c'est ce qu'on disait. Pourquoi bosser comme des tarés alors que des fois, bah, une bonne idée, elle peut être réalisée très simplement. Il y a aussi l'angoisse de la légitimité de se dire, ma bonne idée, faut qu'elle soit compliquée pour qu'elle soit validée. Alors qu'en réalité, les meilleures idées, c'est les idées les plus simples et qui n'ont pas besoin de gros développement derrière, même s'il y a beaucoup de travail derrière une bonne idée. Voilà, etc. En fait, c'est toute cette idée-là de se dire, un petit peu comme disait Claude, qui vient justement d'un milieu populaire où on a cette injonction, il faut bosser. Parce que déjà, on n'a pas grand-chose. Alors, si tu fous rien, t'auras pas. Si tu veux tripler tes besoins, faut bosser trois fois plus, quoi. C'est mathématique, c'est logique, voilà. Et mais en réalité, quand on a fait ce métier depuis des années, on le sait très bien, on peut en faire beaucoup moins. Et du coup, en faire beaucoup plus, parce qu'en fait, on va moins s'acharner on va moins s'acharner sur des postes en fait de son propre travail pour en fait en faire plus derrière ça. Je prends un exemple, je veux faire une image, bah au lieu de la finaliser à rallonge pendant une semaine, bah je me fixe un cadre et mon image, je vais la faire en 2 jours. Et bah en une semaine, si je suis capable de faire ça, je vais sortir 4 images. Et pas une image. Donc en fait, et ça c'est quelque chose qu'on apprend à faire au fur et à mesure. Voilà. Il y a des gens qui l'ont tout de suite. Il y a des gens qui sont capables de se dire, moi je fais une image par jour, ça marche. Prends pas la tête. Bah, c'est super. Parce que quelque part, bah, leur production, elle va vraiment décupler. Alors voilà cette idée de la perfection. Et je pense que ça va être le sujet que tu voulais également aborder, Claude. La perfection est vraiment pour le coup un faux ami parce qu'elle va nous entraîner dans une perte de temps. On va arriver aussi dans cette phrase là qui dit, ouais, tu vois, le boulot il sent la sueur, tu vois, ce genre de considération. Pourquoi, pour quel but à la fin? Est-ce qu'on est plus heureux, est-ce qu'on a gagné plus d'argent, etc.? Non, en fait, faut un moment se dire, bah il faut sortir des choses, quoi. Voilà, c'est pour ça que là, le mieux l'ennemi du bien, ouais, je crois vraiment, quoi.
Je suis d'accord avec toi, Laurent, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Moi, après 20 ans de carrière, je n'en sors pas de ça. C'est-à-dire que c'est lié, c'est normalement l'ADN social. C'est-à-dire quand le budget est gros, il faut que je sue, quoi. Mais c'est inconscient. Alors je lutte contre ça en me disant, bon là t'arrêtes, c'est bon parce que t'as pas besoin d'en faire plus. Mais je sais qu'au fond de moi, quand je travaille peu de temps sur un boulot bien payé, il y a de la culpabilité. Oui. c'est impossible de sortir de cette équation-là. C'est Et alors, des fois, comme je conscientise le truc, je me dis c'est pas la peine d'en faire plus. Le client va être content, mais ça génère de la culpabilité, de.
Mais t'en as conscience.
J'ai pas sué assez.
Et ouais, malgré le fait que t'en as conscience, t'arrives pas à t'en détacher.
Mais non, je peux pas. C'est intrinsèquement lié. Parce que depuis tout petit, on me dit que j'ai grandi dans un milieu où si tu veux gagner ta vie, il faut travailler, quoi. Et le travail, c'est comme ça que tu gagnes ta vie. Et si tu travailles pas, tu gagnes pas ta vie. C'est pas dissociable, si tu veux.
Revenir. Et si t'as bossé que 10 minutes, en fait, c'est comme si t'avais bossé pour 10 euros, alors qu'on t'en file 1000. Et c'est...
Exactement. Mais je ne sors pas de ça, je ne sors pas de ça.
Ouais. Mais je trouve ça intéressant, notamment, tu sais, moi, tes articles me font toujours beaucoup de bien, Claude, et notamment celui-là, du mieux qu'on peut. Il y a ce côté, on fait notre mieux et c'est déjà très bien. C'est important de prendre soin de soi, de sa santé physique, mentale, voilà, d'être conscient de là où on est, d'où on vient, là où on va, etc. Et je pense que sur Sens Créatif, on a aussi pas mal cette philosophie de un artiste en bonne santé est un bon artiste. On rejette le mythe de l'artiste maudit. On est très dans le fait de prendre soin de soi, dans le fait de s'entraider, etc. Tout ça. Mais de temps en temps, j'ai l'impression, je me pose la question, et ça vient en écho avec ce que tu disais juste avant, de il faut tout le temps travailler pour que ça fonctionne. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté doudou, tu sais, en mode genre ça me fait du bien d'écouter ces podcasts ou de lire ces articles et de se conforter dans le je fais de mon mieux, alors que quand on regarde quelque part les personnes qui pètent le game, c'est souvent des personnes qui, on l'a dit, il n'y a pas de secret, il faut cravacher, mais il y a peut-être des gens qui cravachent encore plus que d'autres et qui connaissent les ficelles et tout et tout et tout et tout. Et du coup, par moment, je me demande, mais est-ce qu'on est trop doudou et qu'on devrait être un petit peu en mode genre, en fait, il faut vraiment
se sortir les doigts,
voilà. en fait, je pense que c'est les deux, tu sais, c'est le, il y a pas de dualité. Enfin, je veux dire, c'est paradoxal évidemment.
On n'est pas obligé de faire
travailler
la même chose sur tel ou tel travail déjà pour commencer.
Ouais, mais vous voyez ce que je veux dire en mode, est-ce que si on est que dans le côté, je fais de mon mieux, ça va, c'est suffisant. En fait, non. Il y a besoin de travailler dur pour y arriver. Mais en même temps, c'est vrai que si on se tue à la tâche, il faut pas non plus oublier. Et c'est ce dont on parlait dans l'épisode 1 par rapport au corps et tout et tout.
En fait, moi, ça me fait penser à un truc. Je me dis aussi, voilà, ça dépend du travail, enfin, en tout cas, du projet sur lequel on bosse. C'est sûr qu'un projet personnel, si on fait du mieux qu'on peut, c'est peut-être pas suffisant, voilà, parce que c'est le besoin absolu là, le projet personnel. Donc là, à la rigueur, la débauche d'énergie et en faire trop, ça peut être super pour un projet personnel. Il faut pas raconter de conneries. Par contre, sur une commande, et c'est ce que disait Claude, et ça un petit peu sa problématique, c'est en fait tu te tues sur un boulot pour une reconnaissance qui va pas être énorme, et on te donne de l'argent et toi tu voudrais en faire encore plus parce que t'estimes qu'on te paye déjà trop, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment. Ouais. Y a ce travail-là à faire, en fait. C'est-à-dire vraiment se dire, je prends l'argent d'un côté parce que c'est des boulots de commande, et ces boulots de commande, ils vont me mettre à l'abri pour faire des projets personnels. C'est un petit peu, la problématique qu'on a tous. Il faut séparer les choses. Je pense que c'est vraiment ça. Et moi, j'étais comme Claude,
ouais,
maintenant, je suis plus. Je ressens plus du tout ça. Là, je viens de travailler sur un boulot, un rush vraiment crunch d'un mois, gros délire. Et c'est-à-dire que j'avais aucun recul. C'est-à-dire une image était foirée, c'est la merde. Donc là, c'est injonction à foirer aucune image. Il y a eu quelques retours, mais finalement qui étaient minimes. Et finalement, le rendu des images, j'ai zéro recul dessus. Si j'avais eu un mois de plus, je les aurais pas faites comme ça. Je me serais vachement plus appliqué sur certaines choses. Donc en fait, dès le départ, je me suis dit, de toute façon, je sais que ça va être le bordel parce que j'ai pas. C'est limite, c'était humainement impossible de faire ce boulot-là dans le temps imparti. On l'a réussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une team derrière, parce qu'on se soutient, parce qu'on accepte des choses, parce qu'on accélère, parce que j'ai un DA qui me dit te prends pas la tête, écoute, on va le faire en interne ce truc-là, arrête de passer une demi-heure dessus, alors que nous il y a un graphiste qui va pouvoir le faire de son côté. En gros, c'est des, pour moi en tant qu'artiste, pour le coup, c'est hyper dur de me dire il y a quelqu'un qui va finir mon boulot. Pour moi, c'est horrible. J'ai l'impression d'étouffer. Mais en réalité, une fois qu'on a accepté ce travail en équipe, au final, je m'en fous. Puis le boulot sera super bien. On a bossé sur un super projet en team, et ça me fait du bien de pas avoir succombé au stress, à la colère, et puis au regret ou au dégoût des images que j'ai fait, quoi. Il y a 10 ans, j'en aurais été malade. Hein. J'en aurais été malade. Je me serais dit jamais je veux voir ce truc sortir. Alors que en fait c'est complètement débile parce que maintenant là j'en suis super fier.
Ouais, mais c'est justement aussi parce que tu te dissocies dans ton identité. On revient aux premières minutes de cet épisode et tu viens m'en parler. Il y a la commande et il y a le projet personnel. Et tout ce qui existe entre deux évidemment. Mais justement que du mieux qu'on peut, ça s'applique peut-être plus au travail de commande en mode ne t'identifie pas tellement fort à je suis illustrateur, je suis illustratrice pour prendre l'exemple qui nous concerne. Ça fait partie de toi, de ton identité et voilà ce travail que tu as, mais tu joues pas ta vie quoi. Et donc
non,
du coup,
il y a un mindset en fait qui est différent. Non.
Ouais et que un projet personnel, ça va peut-être plus dans le besoin justement, peut-être dans le ventre, hein, vous me corrigez hein, mais que souvent, et peut-être souvent en début de carrière, on mélange les deux parce qu'en fait tout se joue
parce qu'on veut
sur
que
ce travail.
On veut que tout soit parfait.
Ouais, l'alignement parfait,
le soit magnifique.
Ouais, c'est ça.
Claude, t'en as largement parlé dans ton blog de la perfection.
Ouais, le sens de mon propos par rapport à du mieux qu'on peut, c'était alors c'est peut-être mal exprimé dans l'article ou peut-être c'était de tu donnes tout le meilleur que tu peux. Et avec ça, tu auras fait ton mieux, et c'est du mieux que tu peux, quoi. Mais il faut tout donner, Moi, je donne tout dans la commande, dans le projet perso, je donne tout.
Oui, c'est hyper important.
Voilà. Et au final, j'aurais fait du mieux que j'ai pu. C'est ça le sens de mon propos. Et tout en sachant qu'une bonne partie du résultat il faut pas culpabiliser parce que c'est pas ton fait. On revient au départ au déterminisme. Donc t'as tout donné, t'as fait ce que t'as pu. Et puis le reste, c'est pas ton problème, quoi.
Comme une équipe de sport, qui s'est battue.
Voilà.
C'était la finale. Ils ont tout donné.
Il faut tout donner.
Il y a peut-être la victoire ou la défaite à la fin, mais au moins ils ont mouillé le maillot, quoi. En gros, ça.
C'est ça. C'est plutôt ça le sens de mon propos, c'est que il faut tout donner, quoi. Il faut travailler, il faut tout donner. Il faut pas se ménager, enfin, faut se ménager bien sûr, mais il faut aller chercher au plus loin que tu peux. Et puis au final, t'auras fait au mieux que tu peux.
Donc voilà. Le grand, parce que j'en reviens à ça, excuse-moi d'insister, mais du coup le grand ennemi de cette philosophie-là, c'est la recherche de la perfection.
C'est ça. Et puis en plus, alimenté par le coaching, les réseaux sociaux, les séries télé. Tiens, je te reprends un dernier exemple. C'est le summum de ça, c'est une série sur Netflix qui s'appelle
Loser. Hein, Laurent.
Absolument que vous alliez la regarder.
C'est super intéressant.
Il y a sept
c'est super intéressant, mais c'est-à-dire que c'est des histoires de type dans différents milieux. Je crois que c'est plutôt dans le milieu sportif.
C'est soit le milieu sportif, soit le milieu de l'aventure, mais en général, c'est lié à des compétitions.
Voilà, des types qui ont frôlé le total succès, tu vois. Ils ont failli être Mohamed Ali, ils ont failli être, je sais pas qui, mais il y a eu un événement dans leur parcours qui a fait qu'ils n'ont pas pu être ce qu'ils auraient souhaité être, et puis en plus c'était à portée de main pour eux. Et ces types, ils ont trouvé le moyen de rebondir pour dire que, en fait, cet échec-là leur a permis de devenir quelqu'un d'autre, de aussi bien. Par exemple, il y a un boxeur qui a raté une super carrière. Et finalement, en perdant contre Mike Tyson ou je sais pas quoi, et puis bon, il y avait d'autres problèmes, et puis il a rencontré d'autres obstacles, il est devenu le coach boxe de tout Hollywood. Donc tous les gens qui faisaient des films de boxe passaient par lui, voilà. Et notamment, il a travaillé avec Clint Eastwood, tous les grands réalisateurs de Hollywood. Et en fait, c'est pour dire que même quand tu rates, il faut que tu réussisses.
Une carrière de boxeur professionnel.
Donc, mais si je t'entends bien, Claude, du coup, en fait, c'est inspirant parce que oui, mais
faut que tu réussisses. Il faut que tu réussisses tes échecs.
C'est presque ironique en fait, si j'entends ce que tu me dis. Ouais.
C'est ironique, mais ça montre bien à quel point notre société elle est gangrénée par l'idée de réussir. même tes échecs, tu dois les réussir, quoi. C'est-à-dire, c'est vachement intéressant à voir c'est comme documentaire. Je trouve ça génial.
Vidéo.
Mais quelque part, ça te fait passer le message que même dans tes échecs, tu dois réussir.
Tu peux réussir. Et ça peut être une option que on peut rebondir. On peut rebondir.
C'est une option.
Et que du coup, évidemment, on aime les mettre en scène et en faire des documentaires et des films et tout parce que voilà. C'est inspirant.
Alors, si on n'avait pas Netflix, à regarder Rocky, hein, tout simplement. Je pense qu'il y a,
oui,
il y a tout dans
oui,
Rocky.
Mais, c'est ça, voilà. Mais voilà, peut-être que ce que tu veux dire, Claude, c'est que c'est OK, c'est également OK que on n'arrive pas à rebondir. Et, mais c'est
pas,
pas toujours pas possible, malheureusement. Mais quelque part, je pense que c'est un peu notre, je crois un peu notre philosophie que on peut toujours, on peut, hein, j'utilise le mot peut et on doit pas, on peut si on veut rebondir et ces histoires représentées dans la série Losers en sont un témoin. Mais
voilà, c'est ça.
Mais c'est intéressant de décrire aussi l'injonction à t'es obligé d'en faire quelque chose.
Le problème c'est pas l'échec parce que on a des échecs et on rebondit sur nos échecs.
C'est la honte de l'échec.
Le problème, c'est qu'est-ce que tu entends comme par le succès de l'échec, c'est-à-dire ce boxeur, malgré tout, il devient un mec célèbre à Hollywood. Mais tu peux te planter en illustration et devenir boulanger, ça fera pas le buzz sur les réseaux, tu vois. Et pourtant, ça peut être un succès personnel. C'est là où il faut faire gaffe parce que
obligé de transformer en quelque chose de brillant ce qui nous arrive.
C'est ça.
Non, puis un rêve ça peut t'amener aussi à tout claquer, pas forcément pour le succès mais pour vivre ta vraie vie. Hein, c'est un petit peu l'histoire d'Into the Wild si vous avez vu ce film qui se finit malheureusement très mal.
Quel succès Claude, quel succès.
Ouais.
Mais dans Into the Wild en fait, voilà, on a quelqu'un qui décide vraiment de vivre son aventure, de tout plaquer et d'aller vivre dans la nature, quoi. Voilà. C'est radical. Il n'y a pas de règles. Le succès n'est pas une fin en soi. Pour le coup. Alors là, parce que lui n'est pas allé chercher le succès.
Ouais. Spoiler alert, il meurt à la fin.
Ouais, mais c'est, oui, bah voilà.
c'est suffisamment vieux.
Tout ça pour ça.
C'est un échec. C'est un vrai échec.
C'est un vrai échec pour le coup. Mais c'est l'échec de quelqu'un qui a vécu sa vie.
Ouais.
Il est mort comme il voulait. Enfin, il voulait pas mourir, mais en tout cas, il est mort en vivant sa vie.
Ouais.
Voilà.
Ouais, bah oui.
Ou elle regret.
Et puis là, pour le coup, il a pas rebondi, quoi.
C'est ça, au final. Ou elle regret, quoi, quelque part. Il n'y a pas de regret.
Non, mais c'est intéressant. Ça sera peut-être l'occasion d'en parler dans un autre épisode. Mais qu'est-ce que le succès, l'échec? Voilà, c'est assez subjectif comme notion.
J'aime cette phrase. Cette phrase de mes petits rappeurs péché mignon, Big Flo et Oli, qui disent mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets. Et bah, je trouve ça intéressant parce que c'est genre ça veut dire que on s'est donné les moyens, on a testé, et si ça marche pas, bon ben tant pis. Plutôt que des regrets de pas avoir essayé au final. Mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets.
Le regret de ne pas avoir essayé, c'est le pire. C'est le pire, je trouve.
Ouais. Super. Bon, est-ce que quelqu'un aurait un petit mot de la fin?
Ah, Claude, hein.
Ou est-ce qu'on vit Claude, le petit mot de la fin.
Alors, moi, je dirais qu'en fait, toutes ces différences et enfin, tous les systèmes de société fonctionnent sur, ils sont inégaux quelque part, parce que à partir du moment où physiquement on n'est pas pareil, il y a des inégalités. Donc on essaye, si tu veux, de globalement tendre à une équité entre les individus, mais c'est quasiment impossible. Donc en fait, il faut juste en être conscient, se dire que bah oui, moi j'ai mes qualités, mes défauts, je sais sur quoi je peux miser. Et c'est là-dessus qu'il faut miser, sur soit sur ton talent graphique, soit sur ton talent d'organisation. Et puis il faut tout donner, Et au final, tu seras pas responsable de ton succès, de ton échec. T'auras tout donné, quoi.
Oui.
Voilà. Et t'auras fait du mieux que tu peux.
Pas moins que le mieux qu'on puisse donner. Pas moins. Mais ça, c'est déjà.
Voilà, c'est ça.
Bah, ça reste une discussion qu'on a eue tous les trois. On vous invite vraiment à rebondir. Ça se trouve, on a dit plein de conneries. Et vous allez nous reprendre.
Parce
que c'est sorti comme ça, franchement. Ouais. Sorti comme ça. Moi, j'ai un.
Non, on a le droit de dire des conneries.
This is a judgment-free zone.
Et là, je vais juste faire une autre reco. Voilà, si vous avez eu l'occasion de voir la série Ted Lasso, cool. Si vous l'avez pas vu, bah voilà encore une belle histoire sur les vertus de l'échec. Hein, c'est pas le succès de l'échec, c'est vraiment les vertus de l'échec. Et voilà. Puis pour plein d'autres raisons, cette série est absolument magnifique sur les rapports entre la masculinité, la féminité, tout ça. Donc, voilà. Bref, c'est dans le
film. Et les vertus de l'échec de Charles Pépin, très bon livre que j'ai lu il y a quelques années et qui remet vraiment les choses en place et c'est pas mal du tout. Voilà, c'était la Minute Culture. Voilà. Merci beaucoup les gars, c'était très très cool de discuter avec vous. J'ai hâte d'être au prochain épisode et du coup, on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. N'hésitez pas à venir sur le Discord Sens Créatif pour nous donner votre avis, pour apporter de la nuance, pour raconter vos histoires, pour poser des questions, pour critiquer, pour dire non, c'est que des conneries, nanana. Et une bonne journée à toutes et à tous. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées.
Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif-podcast. Sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas,
Everything is connected!
Avec des remords qu'avec des regrets, vaut mieux vivre avec des remords.